Lancer le PowerPoint, volontiers. Donc, aujourd'hui, c'est le troisième culte mission de l'année. Donc, nous allons parler de l'Église persécutée. Et personnellement, quand j'entends Église persécutée, j'entends aussi combat spirituel. C'est ainsi que j'ai intitulé cette présentation, l'Église persécutée ou le combat spirituel. On va commencer par reprendre dans la Bible quelques occasions où le combat spirituel s'est manifesté. Et puis nous en viendrons au texte que nous allons étudier aujourd'hui dans Matthieu 10. Si nous lisons la Bible, nous découvrons que le combat spirituel a commencé avant même que le monde ne soit créé. Quand Satan, l'ange de lumière, a décidé qu'il voulait lui-même être Dieu, lui-même être l'objet d'un culte et d'une adoration. Si nous consultons Genèse 1, nous voyons comment Dieu a créé la terre et le ciel, il a créé toutes choses sur la terre et tout ça était bon. Et c'est là même que le combat spirituel s'est manifesté pour la première fois. Satan, ça ne lui plaisait pas de voir Dieu heureux avec l'humanité. Il est donc entré dans le jardin d'Éden. Il est venu avec ses paroles mielleuses, ses mensonges. Il a parlé à Ève et il l'a incitée à goûter aux fruits défendus. Ève, dans sa naïveté et son ignorance, a pris le fruit, elle l'a tendu à son mari. Nous voyons dans ce texte comment Satan a passé par Ève pour atteindre Adam. Nous passons ensuite quelques générations plus tard et nous voyons ici, peut-être que vous reconnaîtrez ici un manteau de couleur vive et un homme qui est emmené. C'est Joseph, fils de Jacob. La jalousie et la haine se sont emparées de ses frères parce qu'il était le préféré de son père et aussi pour une autre raison, parce qu'il a eu des songes de la part de l'Éternel où Dieu lui a révélé qu'il serait plus tard dans une position supérieure à celle de ses frères. Et c'est là que le combat spirituel a détruit cette famille au point que ce sont les frères mêmes de Joseph qui l'ont vendu comme esclave. Après de multiples péripéties, Dieu a quand même sauvé son peuple et sauvé ses frères à travers Joseph. Mais là, on voit comment le combat spirituel a été fort, au point de séparer cette famille et qu'un frère soit vendu par ses propres frères. Ici, vous reconnaîtrez Moïse dans sa corbeille. Le peuple d'Israël a été sauvé de la famine dans l'image précédente. Après 300 à 400 ans de vie en Égypte, la Bible nous décrit comment le peuple d'Israël est maintenu en esclavage en Égypte et le pharaon leur impose des travaux très durs. Dieu entend la peine de son peuple. Il entend le joug que Satan fait peser sur eux. Et c'est à ce moment-là qu'il suscite un sauveur. Moïse. Mais là, Satan n'est pas content. Et on voit là comment Satan discerne les choses. Il sait que Dieu va délivrer son peuple. Et Pharaon ordonne aux sages-femmes d'Israël de tuer tous les bébés garçons qui vont naître et de laisser les filles vivre. Là, on voit comment Satan a voulu empêcher Dieu de libérer son peuple d'Égypte. Il a tenté de tuer Moïse à sa naissance. Mais Dieu n'a pas laissé faire. Et il a sauvé cet enfant, il a donné le courage à sa mère qui a trouvé son enfant beau de le protéger et Dieu l'a fait élever par la fille même du roi. Plus tard, Moïse a sauvé le peuple d'Israël par l'action de Dieu. Nous poursuivons ici, nous nous trouvons dans Daniel. Vous reconnaîtrez ici Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Ces trois hommes ont refusé d'adorer le roi est d'adresser leur prière à un homme. Et le roi en a conçu une telle colère qu'il les a fait jeter dans la fournaise. Les gardes qui ont jeté ces trois hommes dans ce feu sont morts, sans même être entrés dans le feu. Et Shadrach, Meshach et Abednego s'en sont sortis indemnes. La puissance du combat spirituel à cette époque-là. L'oppression que Satan faisait régner sur les gens qui cherchent à suivre Dieu. Nous poursuivons dans 1 Roi 18, Élie et les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Jézabel et Achab voulaient vraiment exterminer les adorateurs du vrai Dieu à cette époque-là. Et c'est dans cette tempête qu'Élie s'est trouvé. Et que Dieu s'est manifesté puissamment. Lors de ce sacrifice qui était imbibé d'eau, Dieu l'a fait s'embraser et s'allumer. Nous en venons maintenant, nous avons fini avec l'Ancien Testament, nous arrivons au début du Nouveau Testament. Et nous avons la venue du Sauveur, c'est d'ailleurs ici un épisode qui ressemble à ce qu'on a vu pour Moïse. Quand Jésus est né, les rois mages sont venus. Ils sont venus auprès d'Hérode parce qu'ils cherchaient un roi, donc ils sont venus là où on trouve les rois, dans le palais du roi, auprès d'Hérode. Ils lui ont dit, ah ben, il y a un roi qui est né, où est-ce qu'il est ? Hérode a dit, moi je ne suis pas informé, mais en principe, ce roi dont vous parlez, il doit naître à Bethléem. S'il vous plaît, quand vous l'avez trouvé, informez-moi que moi aussi je puisse l'adorer, s'il vous plaît. Les rois mages sont allés adorer et Dieu leur a révélé dans un songe qu'ils ne devaient pas révéler à Hérode où était le sauveur, donc ils sont partis. Et Hérode, quand il a découvert ça dans sa colère, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a repris le même truc là que Satan a voulu utiliser contre Moïse. Il a demandé qu'on extermine tous les bébés de moins de 2 ans à Bethléem. Donc nous voyons l'intensité du combat spirituel à travers les âges, à travers les périodes. Comment Satan s'acharne afin que Jésus ne puisse pas régner, afin que Jésus ne puisse pas accomplir la tâche qui lui est donnée. Si nous suivons ensuite les chapitres de Matthieu, nous voyons comment Jésus commence son ministère. Et nous arrivons ici à Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Ça, c'est le début du sermon sur la montagne. Et si nous voyons comment Jésus commence ce sermon, je vais aller rapidement à travers les béatitudes. Il commence avec les béatitudes. Et il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous voyez que le sermon sur la montagne, on est au début du ministère de Jésus. Le sermon sur la montagne, première chose que Jésus fait, il parle de la persécution. La persécution n'est pas quelque chose d'inconnu pour Jésus. Si vous poursuivez votre lecture dans Matthieu, vous verrez comment Jésus chasse les démons, comment il fait de multiples guérisons. Et puis, comment donc il enseigne ça à ses disciples. Et nous arrivons dans Matthieu 10, qui est le chapitre que nous allons étudier aujourd'hui. Matthieu 10, 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc nous nous trouvons là. Et c'est là que Jésus parle à ses disciples. Voici ce qu'il leur dit à partir du verset 16. « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois. » pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. On n'y est pas encore. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Voici comment Jésus envoie ses disciples. Il dit « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ne soyez pas naïfs, ne soyons pas naïfs. Depuis quelques années que je fréquente cette église, je connais votre cœur pour le Seigneur, votre cœur pour voir la région de Cossonay gagner à Christ. Et je vous dis que vous ne pourrez pas gagner cette région sans combat spirituel. Satan ne vous laissera pas libérer ses esclaves de son joug sans combat spirituel. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il faut que vous le sachiez, que vous en soyez informés. Le sujet du téléjournal il y a 1 semaine. Il parlait de ces femmes qui se réunissent à travers tout le pays dans des cercles de sorcières. Ces femmes-là cherchent là-dedans, elles l'ont dit, elles cherchent à se reconnecter avec la puissance de leur féminité. Certaines cherchent la vengeance. Elles vont invoquer des esprits pour en retirer un pouvoir mystique, une certaine puissance qu'elles sentent, sans savoir qu'elles se soumettent à ces esprits démoniaques, à Satan qui n'est pas un bon maître. Dans notre région même, moi quand j'accompagne mon fils à l'école, je passe devant une maison sur laquelle il y a un écriteau. Il y a 2 femmes là qui pratiquent le chamanisme, des thérapies où elles invoquent les esprits. Elles invoquent les esprits sur les personnes qui font ça. C'est marqué sur leur panneau. Je connais à Pontalla aussi une autre maison où on pratique ce genre de choses. Si on va regarder dans l'annuaire sur Internet, j'ai trouvé pas moins de 12 guérisseurs, rebouteux, chamans dans les 5 villages qui nous entourent. S'il y a des gens qui peuvent proposer ces services-là, c'est qu'ils ont des clients. Ne soyons pas naïfs, voyons les choses. Si nos cœurs ne sont pas tournés vers Christ, nous sommes sous cet esclavage. Et Satan ne laissera pas partir ses esclaves sans combattre. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Je vous dis aujourd'hui, Jésus le disait déjà en son temps, et c'est un verset qui est encore d'actualité aujourd'hui. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. Le chemin dans lequel Jésus nous appelle aujourd'hui, c'est de le suivre, quoi qu'il en coûte. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. Il n'y aura pas de fruits. Je vous dis, les sauterelles ne s'abattent pas sur un champ stérile. Elles viennent quand le champ porte du fruit, quand il est prêt à être récolté. Qui est notre seigneur ? Qui est notre maître ? Qu'est-ce que Jésus n'a pas souffert pour venir nous chercher, nous sauver. Donc passons. Ça, ce sera juste pour après. On va y aller. Mon maître, je sais qui il est. C'est un charpentier, un homme bon, doux, plein d'amour, qui est venu gratuitement sur terre, opérer des guérisons miraculeuses, chasser des démons, délivrer les gens du joug sous lequel ils étaient. Mon maître, pour ce qu'il a fait, il a été condamné par les maîtres religieux de son époque, sans chef d'accusation valable. Ces chefs religieux ne trouvant pas un moyen de le condamner par leur loi, ils l'ont mené devant les tribunaux laïcs. Pilate. Pilate n'a pas trouvé de chef d'accusation contre Jésus. Au défi de la loi, il l'a quand même condamné à venir mourir sur une croix. Ça, c'est mon maître. Nous lisons encore un peu plus tard dans Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Elle en aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je veux vous poser la question aujourd'hui. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour voir Christ régner sur la région de Cossonay? Pour voir des gens délivrés des démons? Pour voir des guérisons miraculeuses? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Quand vos enfants tomberont malades, comme les enfants de Job, tiendrez-vous bon? Quand vos parents vous livreraient, tiendriez-vous bon? Quand vos enfants vous livreraient, est-ce que vous tiendrez bon? Ça, c'est le chemin que le Christ a suivi. Est-ce que nous le suivrons jusque-là, ou est-ce que nous ferons comme le jeune homme riche? Quand Jésus nous demandera d'abandonner nos richesses pour le suivre, est-ce que nous aurons le courage de le faire? Je ne dis pas tout ça pour vous effrayer. Jésus ne dit pas tout ça pour nous effrayer. Nous voyons donc dans le chapitre toujours 10, verset 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Ne vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Mes frères et sœurs, je vous dis, la persécution, ça n'est pas que pour l'Église au loin. La persécution, c'est pour toute personne qui décide de suivre Jésus, parce que Jésus lui-même en a fait l'objet. Soyez encouragés aujourd'hui. Je vais laisser Pierre maintenant venir nous parler de comment le combat spirituel se vit en Côte d'Ivoire.
Ok. Comme mon épouse l'a dit, ce qui a été vécu depuis le début de l'Église se poursuit et ça continue de se poursuivre en Côte d'Ivoire. Et ma famille, mes parents et les populations de ma région, on a vécu des situations similaires. Ça, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir que toute cette partie, la partie sud, la mission, les premiers missionnaires ont débarqué ici, dans un coin qu'on appelle Grand Bassam. Et puis après, l'évangile s'est répandu sur tout le sud. Et pour ce qui est du nord, il y a encore un gros travail à faire. Et moi, je voudrais vous montrer un peu les grands groupes ethniques. Donc là, tout ce groupe, l'évangile est quand même assez bien répandu, même si tout le monde n'est pas encore chrétien. Mais l'Église a pris position, l'Église a sa place. On n'a pas de résistance aussi farouche comme dans les débuts de la colonisation. Ce côté ouest, même chose. Et là, ce côté nord-est, ça c'est ma zone. Et je peux vous dire que quand les missionnaires ont débarqué là, ça n'a pas été facile. Lorsque mes parents se sont convertis, ils ont été maudits par leurs propres parents. Mais la finalité, ses parents, mes deux grands-mères sont devenues chrétiennes. Et c'est l'Église qui a organisé leurs funérailles. Et ça, c'est quelque chose que, en tant qu'enfant, j'ai vécu à quel point elles étaient réticentes à l'Évangile. Ça, c'est la zone de Korogo. Et ce village, c'est un village où les chrétiens ont été tabassés, frappés, et même les outils, les bœufs qu'ils utilisaient pour faire l'agriculture. Certains chrétiens ont eu leurs bœufs qui ont été égorgés, tout simplement parce qu'ils avaient décidé de suivre Christ. Ici, mon père a dû aller devant les autorités pour demander que l'église puisse être construite parce que les notables et chefs de ce village avaient décidé qu'ils ne voulaient pas d'un chrétien dans leur village. Et je peux vous dire qu'il y a eu un combat spirituel là où les notables qui étaient à la réunion, il y a eu un travail mystique sur l'heure. Ils ont sélectionné des gens qui devaient venir saluer mon père, les toutes premières personnes à le saluer. Et comme ça, mystiquement, c'était fini. Mais la puissance de Dieu a prévalu. Et l'église, il y a une grande église aujourd'hui dans ce village. Là, quand nous sommes arrivés, mes parents sont arrivés pour commencer leur ministère pastoral. On a été chassé dans certains foyers quand tu allais pour demander même de l'eau à boire. Les gens, ils te refusent parce que tout simplement, tu es chrétien. Donc, nous avons vraiment vécu la persécution, mais l'Église a prévalu. Dieu a continué de faire son travail. Et donc, si je reviens là, la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que moi j'ai pu constater et les réalités actuelles, c'est que l'Église n'a pas encore pu avoir une bonne place dans cette zone. Et ça, c'est la zone à dominance islamique. Et je peux vous dire que la persécution qu'on peut sentir aujourd'hui, si on doit parler de persécution en Côte d'Ivoire, c'est dans ces famille et ces localités à forte dominance islamique, parce que ça fait partie de leur culture qu'un musulman devienne chrétien. C'est comme s'il a rejeté la culture. Et ça, les gens n'arrivent pas encore à l'accepter. Ils sont bien prêts à voir l'église ailleurs, mais pas chez eux. Et moi, je voudrais vous encourager à savoir que si en Côte d'Ivoire, toutes ces zones l'Église a pu s'implanter. Je reste optimiste que cette zone aussi sera bientôt acquise. Et encourageons-nous, parce que Jésus avait dit à Pierre, tu t'appelles Pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et c'est ce qui se passera également pour la zone de Kossoné et pour l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous accompagne dans nos différentes régions. Et continuons de prier pour l'Église persécutée. Mais sachons que l'Église persécutée aussi, c'est aussi en Suisse. Qu'on ne se voile pas les yeux. si nous tenons pour Christ, on sera persécuté comme Christ a été persécuté. Mais la joie, c'est de savoir que Jésus a déjà gagné la bataille. Amen.